Je voudrais commencer, avant qu'on revienne à Ésaïe 30, par une question, comme l'indique cette jolie image. Est-ce que Dieu vous sert à quelque chose ? Est-ce que ce que vous savez de Dieu, de son caractère, vous sert à quelque chose dans votre quotidien ? Est-ce que ça fait une différence ? Je vais être plus spécifique, parce que sinon je sens qu'on va un peu galérer. Est-ce que votre connaissance de Dieu joue un rôle dans votre prise de décision quand vous avez un truc qui vous angoisse, qui vous fait peur, ou quand vous êtes épuisé ou lasse ? Ou est-ce que ce qui vous fait réagir dans ce genre de situation où vous avez un truc qui vous vient tout de suite là, ce qui vous fait réagir, ça va être vos mécanismes hérités de votre environnement familial, ou la confiance que vous avez dans vos propres compétences, ou les habitudes issues de ce qui se fait autour de vous et que voilà, tout le monde réagit plus ou moins comme ça, donc je réagis pareil. Peut-être pensez à des moments où vous avez été en stress intense ou en fatigue intense, et que vous avez dû prendre une décision. Qu'est-ce qui a influencé votre décision, votre réaction ? Où est-ce que vous êtes allé chercher l'origine de votre décision ? Je vous laisse quand même une seconde. Un moment où vous avez été un gros sujet de stress ou une grosse fatigue et vous aviez une décision à prendre, qu'est-ce qui a influencé votre décision, votre réaction ? Est-ce que c'était lié à qui est Dieu ? Ou est-ce que c'était lié à des choses de votre caractère, ou des choses liées à votre famille, ou des choses juste de ce monde autour de nous ? Vous n'aurez pas à partager cette réponse devant tout le monde, donc vous pouvez la garder. Et même si c'est une réponse un peu floue, ce n'est pas grave. On y reviendra, mais là on va revenir à Ésaïe 30. Nous sommes donc en Juda, ici. Voilà, sous le roi Ézéchias, et Jérusalem est menacée par le roi d'Assyrie, en orange, dont la capitale est Ninive, le roi Sennachérib. L'Assyrie, c'est un peu la superpuissance du moment, et l'idée d'Ézéchias, qui panique un peu quand il apprend que l'Assyrie va venir les envahir, c'est de faire alliance avec l'Égypte pour se défendre. La puissance de l'Égypte, ça va, j'ai pas besoin de... C'est bon. Il se dit, bah ok, on va chercher l'autre grosse puissance du moment, c'est qui ? C'est les Égyptiens, on va faire une alliance avec les Égyptiens. Des Judéens ont même apporté des pots de vin en Égypte pour essayer de faire fléchir le pharaon. Et certains se sont même réfugiés là-bas en se disant, la Syrie, on va se la prendre sur la tête, allons directement en Égypte, on sera bien. Ils ne pensent pas à Dieu, ils ne consultent pas Dieu, ils ne se réfugient pas en lui, ils préfèrent l'illusion de l'aide de l'Égypte qui leur procure un sentiment de sécurité, parce que tout le monde dit à l'époque que l'Égypte c'est le plus fort, donc puisque tout le monde le dit, c'est bien que ça doit être vrai. Et Dieu explique dans tout le début du chapitre 30, ce qu'on n'a pas lu dans les versets 1 à 17, que cela leur vaudra d'être envahi par la Syrie, que même Jérusalem sera attaquée et qu'Ézéchias devra mettre genou à terre face à Sennachérib, et c'est ce qui va se passer en 701. Quand l'Empire assyrien attaquera Jérusalem finalement. Et dans la partie qu'on a lue, Ésaïe explique pourquoi, en fait, ils devraient prendre leur décision en regardant à Dieu plutôt qu'en regardant à l'Égypte, ou qu'en regardant à leurs compétences, ou à leur famille, ou aux pratiques de leur entourage. Il leur dit, voilà qui est Dieu, et voilà pourquoi quand on panique, quand on a quelque chose qui nous fait peur devant nous, on devrait se tourner vers Dieu plutôt que vers autre chose. Quelle que soit notre Égypte. Pourquoi est-ce qu'il faut se tourner vers Dieu ? Eh bien, la première chose, c'est parce que nous avons un Dieu qui attend un peuple qui s'attend à lui. Ça, c'est les versets 15 à 18, les versets que vous avez sans doute moins observés, vu que le futur commence au verset 18. Quand l'Assyrie les menace, le peuple de Juda recherche l'aide de l'Égypte pour se défendre. C'était un mauvais choix. Ils auraient dû calmement s'en remettre au Seigneur. Ils auraient dû faire demi-tour, nous dit le texte dans la version originale. Ce qui, dans le contexte, veut plutôt dire arrêter de courir, arrêter d'aller vers là où tu vas, juste stopper. Ils auraient dû rester calmes, tranquilles, en pleine confiance. Mais ils ont paniqué. Ils ont paniqué et ils n'ont pas voulu rester calmes et dans la confiance. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas choisir la confiance en Dieu ? Ça épargne des semaines de voyage jusqu'à l'Égypte. Et bon, l'histoire nous a prouvé quand même que Dieu était plus fort que le pharaon. S'il y a une battle dans l'histoire que les Juifs sont censés se souvenir, c'est celle-là. Alors pourquoi ne pas vouloir ce qui semble être finalement le choix le plus raisonnable? Parce que reconnaître le besoin de Dieu, c'est aussi reconnaître nos limites. C'est reconnaître qu'on n'est pas suffisant. C'est briser son orgueil. Parce que si j'ai besoin de Dieu pour ça, peut-être j'aurais besoin de Dieu pour plus de choses, en fait. Et le peuple, comme nous, réagit toujours avec son orgueil. Et il se tourne vers des trucs humains qu'il peut contrôler ou qu'il a l'impression qu'il peut contrôler, plutôt que de réagir avec humilité et de se tourner vers Dieu. L'orgueil, c'est un sujet qu'Ésaïe a déjà abordé comme un problème récurrent du peuple. On en a déjà parlé dans ces soirées. C'est sans doute le prophète qui a le plus parlé d'orgueil. Ésaïe a vu plus que tous les autres que l'orgueil, c'était ce qui nous empêchait de nous confier en Dieu. Peut-être parce que c'était aussi sa faiblesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on sait d'Ésaïe, jeune, de famille royale, brillant, prophète à la cour, il ne manquerait plus qu'il soit beau, et puis ça y est, c'est bon, on a le combo total. Il a sans doute été tenté de mettre sa confiance, son orgueil dans toutes ces choses, son origine, le fait qu'il a été appelé hyper jeune, le fait qu'il était excessivement intelligent, vu comment on galère pour comprendre ce qu'il veut dire, vous êtes d'accord avec moi. Mais il a compris aussi que c'était un péché, et il sait que son péché, c'est le péché de tout le peuple, et il discerne de l'orgueil dans l'ambassade qui est envoyée en Égypte pour chercher de l'aide en Égypte plutôt qu'en Dieu. Donc le peuple a fait ses choix, le choix de l'orgueil, le choix de ne pas s'humilier devant Dieu et d'aller chercher de l'aide dans quelque chose qu'on pense qu'on peut contrôler, mais leurs choix vont se retourner contre eux. Vous avez choisi les chevaux des Égyptiens parce qu'ils étaient rapides? Eh bien, vous allez en avoir besoin de ces chevaux-là parce qu'il va falloir courir très très vite, c'est moi qui vous le dis, mais en fait, désolé, mais les chevaux des Assyriens, ils sont plus rapides que les vôtres. Vous avez refusé le calme et vous vous êtes agité dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions? Ah bah oui, vous voulez courir? Bah vous allez courir, c'est moi qui vous le dis, vous allez courir dans tous les sens, vous n'avez pas idée, paniquer face aux ennemis, ah non, c'est sûr, vous ne serez pas tranquille, c'est sûr, vous ne serez pas tranquille. C'est la conclusion de toute la première partie du chapitre, mais le verset 18, c'est un pivot qui crée un renversement. Parce que heureusement, quand vous étiez en train de vous agiter partout, de courir, machin, heureusement, Dieu, lui, il était calme. Il était tranquille, il était confiant, il attendait. Vous avez un jeu de mots dans ce verset, enfin je sais pas, un jeu de mots c'est peut-être un petit peu exagéré, mais vous avez une répétition. C'est pourquoi l'Éternel attendra pour vous de grâce envers vous. Et fin du verset, bienheureux tous ceux qui s'attendent à lui. En fonction des versions, des fois ils n'ont pas mis le même mot, mais c'est le même mot. Dieu attend, et vous aussi, vous devez attendre. Alors, Dieu attend. Dieu attend parce que le peuple ne lui fait pas confiance, parce que le peuple est infidèle, parce que le peuple ne veut pas de sa grâce. Le peuple s'est barré au loin, et donc Dieu attend. On retrouve ici exactement la même idée que la parabole du fils prodigue, que peut-être vous maîtrisez un peu. Dans cette parabole de Jésus, un homme avait deux fils, et le cadet un jour décide qu'il en a marre d'être sous l'autorité de son père et qu'il veut s'émanciper. Il demande l'héritage. Comme si son père était déjà mort, il prend sa part et il se casse à aller vivre sa meilleure vie. Mais rapidement, les choses tournent mal, il fait des mauvais choix, il en paye les conséquences et il finit brisé, épuisé et très pauvre. Il décide donc de rentrer chez lui, craignant un petit peu la réaction de son père, mais en se disant, je lui dirai, en fait, je suis prêt à être ton esclave, ton serviteur et tout pour que tu me reprennes. Mais chose incroyable, pour l'époque, mais pas que, le père rejeté, méprisé, déshonoré par son fils, attendait son fils, en fait, depuis des années. Il le surveillait de la porte, là, à heure fixe, il faisait ça. Et quand il le voit arriver, il lui court dans les bras, il l'accueille, il le nourrit, il lui donne du repos, il lui fait une fête. Il l'a pardonné à la seconde où il l'a vu revenir sur le chemin. Il attendait juste que son fils se rende compte qu'en fait, il allait chercher de la joie au mauvais endroit et revenir à son père. Je ne serais pas du tout étonnée que l'élaboration de cette parabole soit chez Jésus le fruit de sa méditation d'Ésaïe 30, en plus du fait qu'il connaît plutôt bien son père. Parce que c'est exactement comme le père de la parabole, on a ici un Dieu qui attend le retour de son fils, le retour de son peuple. Il attend que le peuple s'attende à lui pour lui montrer son amour et sa grâce qui ne s'est jamais arrêtée, qui n'a jamais tari, il n'a jamais arrêté d'aimer le peuple, alors même que le peuple était en train de courir après l'Égypte. Pendant que le peuple s'agitait dans tous les sens, prenait des mauvaises décisions, se méfiait même de Dieu et préférait mettre sa confiance ailleurs, lui, il attendait. Il attendait que le peuple se rende compte qu'il est le seul à vraiment avoir ses intérêts à cœur, pas les Égyptiens. Il attendait que le peuple se rende compte qu'il est le seul à pouvoir les sauver, pas l'Égypte. On a donc un Dieu qui attend. Et on a un peuple qui est heureux, si seulement lui aussi, au lieu de s'agiter dans tous les sens, il s'attendait à Dieu. Le peuple est heureux s'il s'attend à Dieu, s'il attend que Dieu agisse selon ce qu'il a promis. L'idée, ce n'est pas d'être passif et de prendre aucune décision, mais c'est d'attendre que Dieu agisse plutôt que de prendre des mauvaises décisions, décisions qu'on sait être pas ce que Dieu veut, mais bon, puisque Dieu ne fait rien, il faut bien que je prenne les choses en main. Je suis hallucinée, et c'est genre une remarque de vieille, hein, je suis désolée, mais je suis hallucinée du nombre de jeunes au GBU que je vois qui se mettent avec un non-croyant parce qu'ils ne peuvent pas attendre que Dieu agisse dans leur célibat. À 25 ans, Dieu m'a pas donné un mec, je vais chercher ailleurs. Je m'en fous, rien à faire. S'il fait pas son boulot, il faut bien que je prenne des choses en main. Je suis hallucinée parce que je revois ce cycle à chaque fois. Attendez-vous à Dieu plutôt que d'envoyer des ambassades dans des lieux pourris en faisant des choix qui vous reviendront en pleine face à un moment donné. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus tricky pour votre génération, mais il y en a mille autres. Il y en a mille autres, des moments où en fait, on ne veut pas s'attendre à Dieu parce qu'on trouve qu'il est trop lent ou qu'il fait les choses pas correctement ou que nous, quand même, on sait mieux. Hein. Je veux dire, je connais mieux ma vie que Dieu. C'est moi qui suis dans ce corps quand même, donc je maîtrise mes trucs. Et donc, je vais faire des choses où je sais qu'en fait, c'est la mauvaise décision, mais bon, puisque Dieu ne fait pas, il faut bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Soyez énervés avec moi. Le peuple est heureux s'il s'attend à Dieu parce que le peuple va faire grâce, parce que Dieu, pardon, va faire grâce. Il va faire grâce si le peuple revient. Ça va passer crème. Pourquoi va-t-il faire grâce alors que le peuple fait n'importe quoi? Le texte nous dit, peut-être assez étonnamment, peut-être vous avez tiqué là-dessus, qu'il va faire grâce parce qu'il est un Dieu de justice, parce qu'il est un Dieu d'équité. On se dit, mais normalement la justice c'est plutôt tu pêches, tu meurs. Hein. Mais là c'est parce qu'il est un Dieu de justice qu'il va faire grâce. Il est droit quant à ses promesses. Il a promis qu'il pardonnerait son peuple, il est juste, il fait ce qu'il dit. C'est un Dieu dont la justice a une face jugement, mais aussi une face grâce. Et son attente, c'est pas une attente pour dire, allez, vas-y, reviens, reviens, tu vas voir quand tu vas revenir, tu vois ce que tu vas prendre. C'est une attente pour faire grâce, pas pour juger. Parce que c'est ce qu'il veut, leur faire grâce et nous faire grâce. La grâce, c'est un élan de son cœur et pour nous, c'est vraiment la clé d'une vie calme, confiante et tranquille. Laisser Dieu être Dieu, lui être complètement dépendant, c'est pas français, être complètement dépendant de Dieu, s'attendre à lui, c'est ce qui aurait sauvé le peuple. C'est ce qui aurait sauvé le peuple plutôt que l'ambassade en Égypte. Et si on s'attend à lui, on ne sera pas déçu. Vous n'avez rien à gagner, nous n'avons rien à gagner à nous confier dans l'Égypte, et tout à gagner à nous confier en Dieu. La preuve, dit Ésaïe, voilà ce que Dieu va faire quand il va manifester sa grâce pour ceux qui s'attendent à lui. Voilà ce qu'il va faire pour ceux qui s'attendent à lui. Et ça, c'est la partie du texte que vous maîtrisez un petit peu plus, des versets 19 à 23. Les effets pour le peuple de la manifestation de la grâce. Vous avez trois choses qui suivent le déroulement du texte, on va être un peu linéaire là. La première, dans les versets 19 à 22, on a toute une liste qui décrit la toute nouvelle relation du peuple avec Dieu et qu'on pourrait résumer par le fait que Dieu est l'enseignant du peuple, le rabbi. D'une part parce que le verset 20 parle de l'instructeur. Alors en fonction des versions, je ne sais pas si vous avez tous la même là, du coup vous avez peut-être tous celle qu'a lu Amy, mais en fonction des versions, vous avez soit du pluriel ou du singulier. C'est soit le maître ou les maîtres, parce qu'en fait on peut traduire les deux. Dans l'hébreu, les deux sont possibles. Si c'est du pluriel, ça peut être une référence aux prophètes. Il y aura des prophètes et ils vont vous instruire. Si c'est du singulier, bon, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est clairement Dieu. La Bible, la seconde 21 qu'a lu Amy, a choisi le singulier. Et je pense qu'ils ont raison, pas du tout parce que je m'y connais en hébreu, je n'y connais rien en hébreu, je ne lis pas l'hébreu, mais à cause de tout le reste des idées de ces versets qui va dans le sens du fait que Dieu est notre enseignant dans cette section 19 à 22. Quand le peuple lui parle, Dieu les écoute, et il leur répond. Il répond à leur appel à l'aide, il vient les aider quand ils galèrent à faire l'exercice et comprendre la leçon. Il est là pour eux, il pose une question, il répond. Exactement comme un maître. Quand la grâce se manifestera, le peuple parlera à Dieu et il sera immédiatement écouté. C'est un dialogue direct. sans délai, attendez, j'ai demandé au prophète, attends, le prophète demande à Dieu, il attend la réponse, il revient, etc. Dialogue direct, comme un maître et son élève. Dieu donne le pain et l'eau quand le peuple est dans la détresse, comme un rabbi, ou plutôt un prophète, si on veut être moins anachronique pour l'époque d'Ésaïe. Le prophète qui devait s'occuper de pourvoir aux besoins de ses disciples. Quand vous récupérez des disciples, vous devez les nourrir, vous devez les faire boire dans les moments compliqués. Et le fait qu'Ésaïe parle de détresse et d'oppression et non pas de famine et de manque d'eau montre qu'Ésaïe fait bien ici une métaphore. On ne parle pas de nourriture physique, mais bien de nourriture spirituelle. Dans les difficultés, nous allons continuer à recevoir de la part de Dieu tout ce qu'il faut pour notre vie, pour notre relation avec lui, son pain de vie et son eau qui jaillit dans la vie éternelle. Dieu va les instruire, bon ça c'est le truc le plus direct quand on parle d'enseignant, il va murmurer à leur oreille pour les guider sur le bon chemin, qu'ils aillent à droite ou qu'ils aillent à gauche, en gros c'est quelles que soient les situations de la vie. Et finalement, le résultat de tout ça, le résultat d'avoir l'Éternel pour maître, c'est que parce que le Seigneur les enseigne, ils abandonnent les idoles, ils se rendent compte en fait de la bêtise, de la folie de l'idolâtrie. Et on sait, peut-être vous ne savez pas, mais je vous le dis, on sait qu'il faut que Dieu nous enseigne pour qu'on voit la folie de l'idolâtrie, parce qu'en fait, au fond de nous-mêmes, on ne voit pas vraiment le problème. On le voit théoriquement, personne ne va dire « Ah, les idoles, c'est trop bien ». On sait théoriquement qu'il ne faut pas adorer d'autres choses que Dieu, mais c'est plus dur de reconnaître les choses profondes en nous, vous savez, ces réactions que vous avez quand vous êtes en stress ou en lassitude, les choses vers lesquelles vous tournez quand vous êtes en panique, c'est beaucoup plus dur de reconnaître ces choses profondes que mon cœur fabrique sans cesse pour que je les adore plutôt que je les adore que Dieu. C'est vraiment la leçon que j'ai apprise. Je pense que peut-être plusieurs d'entre vous sont concernés, mais lors du premier confinement, on avait lu à plusieurs Les Idoles du cœur de Tim Keller. Donc on lisait un chapitre par semaine et puis après on s'échangeait par WhatsApp parce qu'on se manquait trop et qu'il fallait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et je pense que j'avais déjà lu ce livre il y a longtemps, mais en fait je pense que je devrais m'obliger à le relire tous les 3 ans, un truc comme ça. Et ça m'a vraiment refrappée de me dire, mais en fait comment c'est profond en moi, les mécanismes qui me poussent à adorer autre chose que Dieu. C'est pas juste qu'il faut que je regarde moins Netflix, quoi. C'est pas juste qu'il faut que j'enlève des trucs dont on n'a pas eu le temps. C'est que c'est vraiment des choses profondément ancrées, des réactions, des mécanismes que j'ai qui sont au fond de mon cœur et qui vont me pousser à toujours mettre ma confiance, mettre mon salut dans autre chose qu'en Dieu. Mais heureusement, je peux fixer les yeux sur Jésus. Et en fixant les yeux sur Jésus, en faisant de lui mon enseignant et mon maître, alors le texte dit que mes idoles me paraîtront ridicules et j'aurai envie de m'en débarrasser. Alors pourquoi je dis Jésus et pas Dieu, alors qu'Ésaïe parle de Dieu? Bon, déjà c'est la même personne, donc bon, voilà, je peux le dire si je veux. Mais surtout, dans ce passage, franchement, le rabbi, le pain, l'eau, le chemin, bon ça fait quand même beaucoup, on voit vraiment comment Jésus s'est inséré dans la révélation d'Ésaïe pour se révéler au peuple. Jésus, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle de manière ultime, c'est Dieu qui nous donne toutes les bénédictions spirituelles, le pain et l'eau, tout ce qu'il faut pour traverser les circonstances de nos vies. C'est Dieu qui nous guide, qui murmure à notre oreille par le Saint-Esprit, donné après son ascension, pour qu'il soit toujours, toujours avec nous. Et tout ça, tout ce que Jésus fait pour nous au quotidien, ça devrait nous pousser à affronter nos idoles, ça veut dire à reconnaître qu'en fait on a ces problèmes-là, qu'on a ces réactions qui ne sont pas saines, et à les éjecter hors d'ici, comme dit le texte. Dieu va enseigner son peuple, puis il nous amène un peu plus loin dans le futur pour nous parler de quand il va restaurer son peuple. Et c'est les versets 23 à 26. Alors on l'a déjà dit, à cause de sa rébellion, le peuple va connaître l'échec face à la Syrie et la destruction. Ils vont payer les conséquences de leurs péchés, ils ont fait des mauvais choix, ils ont refusé de se confier en Dieu, leurs choix vont se retourner contre eux et vont les détruire, ils vont finir brisés, usés et fatigués. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu va intervenir pour les consoler et les restaurer. Et on a dans ces versets une description vraiment géniale de la vie qu'ils vont vivre, un peu la vie rêvée des anges. C'était très marrant de vous écouter d'une oreille raconter tout ça. Avec quand même au milieu une mention d'une grande tuerie et d'une chute des tours qui sonne un petit peu apocalyptique, et c'est exactement ça. On parle ici de ce qui va se passer quand Dieu interviendra le jour du jugement, le jour où certains auront la vie pour toujours et d'autres la mort pour toujours. D'où la grande tuerie. C'est le jour où les tours s'écrouleront. Alors, les tours dans la Bible, c'est toujours une référence à Babel. Dans les séries policières ou les romans policiers où vous avez affaire à un serial killer, il y a toujours le meurtre originel. Vous avez remarqué ça. On cherche à savoir qui est la première personne que le serial killer a tuée. Souvent, c'est sa mère. Et si on trouve qui est la première personne que le serial killer a tuée, alors du coup, on comprend tout le schéma, toute son intention, et du coup, hop, on arrive à le démasquer, etc. C'est juste on retrouve ça à chaque fois quasiment qu'il y a un serial killer, le meurtre originel. Et ben, c'est un peu pareil avec la Bible. À chaque fois que vous avez une tour, vous devez vous dire quelle est la tour originelle qui explique toutes les intentions et tout ce qu'il y a avec la tour. Eh bien, la tour originelle, c'est Babel. C'est Babel qui donne le modèle et qui explique l'intention de toutes les autres tours qu'on a dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Pourquoi Babel a été construite? C'était une volonté orgueilleuse, oh, tiens, on a déjà vu ce mot-là, de prendre la place de Dieu, de se faire un nom, d'avoir une renommée, etc. Les tours, ce sont tous les lieux dans lesquels on met notre confiance. Idole, oh là là, on parle toujours de la même chose, dis donc. Toutes les choses dans lesquelles on met notre orgueil, toutes les choses où on pense, ah j'ai un problème, je vais dans la tour, je serai en sécurité. J'appelle ma mère, je serai en sécurité. Je fais un plan, ça c'est pas m'appeler ma mère, mais le deuxième, là, ce que je vais vous dire. Je me fais un plan sur, attends, c'est bon, je vais trouver des stratégies, j'écris un truc et tout machin, voilà, c'est bon, je me sens en sécurité. J'ai pas prié Dieu, mais j'ai un plan. Qui peut-être marchera pas du tout, mais c'est pas grave, je l'ai écrit, donc je me sens en sécurité. Tous ces trucs, ouais, c'est ça, tous ces trucs qu'on fait, ou en fait, pour. Et après, du coup, on se dit, ah, c'est bon, on respire de nouveau. On a l'impression qu'on recontrôle de nouveau la situation, qu'on est en sécurité. Mais quand Dieu interviendra, tout cela s'écroulera, et c'est pour le meilleur. Et c'est pour le meilleur. Parce que la prospérité viendra, et ce sera bien, la terre sera restaurée, la pluie permettra que les plantes poussent facilement et en nombre, et que la nourriture soit abondante, riche et savoureuse, s'il vous plaît. Les animaux seront restaurés, ils auront de quoi manger, ils seront en bonne santé, ils seront vigoureux, les cours d'eau seront restaurés, l'eau coulera abondamment, c'est fini la guerre de l'eau, c'est fini l'épuisement des nappes phréatiques, il y a suffisamment d'eau pour tout le monde. Les astres seront restaurés. Le pays sera plein de lumière, fini les journées grises sans soleil, genre aujourd'hui. Leurs vies seront illuminées. Et finalement, et c'est sans doute la conséquence de ce fabuleux cadre de vie, le peuple est guéri de ses blessures directement par la main de Dieu. Une vie d'épanouissement et de prospérité, de bénédiction et de joie, c'est une liste cool, mais c'est surtout une liste qui colle exactement avec les domaines de compétences des faux dieux, vers lesquels Israël allait quand ils avaient un problème. Dieu promet de donner au peuple ce qui les faisait courir après les idoles. La pluie, des animaux en bonne santé, l'eau, alors l'eau c'est voilà, et puis les astres qui vont bien. Le peuple adorait les idoles parce qu'il pensait qu'elles pouvaient leur donner pluie, soleil et bonne récolte. Mais l'abondance vient de Dieu. La bonification de nos vies vient de Dieu. Qu'est-ce qui va rendre votre vie meilleure demain qu'aujourd'hui? C'est pas un boulot, c'est même pas un boulot bien payé, c'est pas avoir un petit ami ou une petite amie, c'est pas l'admiration de vos potes ou l'admiration de votre famille, c'est pas de l'argent, c'est Dieu. C'est Dieu qui va rendre votre vie de demain meilleure qu'aujourd'hui. Quand Dieu interviendra, tout ce qui est bon dans ce monde deviendra encore meilleur. Ça inclut l'amitié, la musique, la sagesse, l'amour. Et moi qui galère encore beaucoup avec mes idoles profondes et mes réactions quand je suis en stress, les tours dans lesquelles je vais me réfugier, je sais qu'un jour viendra enfin où je comprendrai totalement, vraiment, complètement dans ma tête et dans mes émotions le fait que tout ce qui est bon vient de Dieu et vient de Dieu seulement. Et je sais que quand je verrai Dieu face à face et que je me dirai « Mais Marion, mais t'es tellement stupide, l'énergie que tu as dépensée à aller chercher du bonheur, de l'amour, de la joie, du succès dans autre chose qu'en Dieu. Mais enfin, pourquoi tu t'es agitée dans tous les sens? T'aurais pu avoir une vie tellement plus cool et tellement plus calme. » Et je m'en voudrais à mort. Mais Dieu me sauvera et il me dira « Allez, ça va. C'était nul, mais Jésus a tout payé. » Dieu va enseigner son peuple, il va le restaurer. Et enfin, Isaïe fait un petit retour en arrière pour expliquer comment une si belle vie sera possible. Une si belle vie sera possible parce que Dieu va anéantir les ennemis, il va protéger son peuple. J'ai entendu des gens répondre à faire cette partie-là des interviews avec plus ou moins de jubilation en fonction des personnes. C'était très instructif. Versets 27 à 33. L'échec de Juda, en tant que peuple de Dieu confiant, entraîne la destruction, mais l'intervention de Dieu entraîne non seulement la rédemption du peuple, mais aussi la destruction des ennemis, c'est-à-dire en contexte là les Assyriens, vous aviez compris. L'ennemi du peuple sera terrifié parce que Dieu se lèvera tel un guerrier pour défendre son peuple. Ses armes, c'est son souffle qui balaye tout tel une tempête, qui crée des remous dans la mer, des inondations, machin, machin. Sa voix qui crame tout tel un feu et son bâton qui frappe fort. Vous avez retrouvé ces trois trucs normalement. On a là une description de la colère de Dieu typique de l'Ancien Testament, mais ce n'est pas sur le peuple que cette colère va s'abattre, mais sur les ennemis du peuple. Ce qui terrifie le peuple actuellement, ce qui les fait prendre des mauvaises décisions et courir partout, sera terrifié par Dieu, finalement. Alors évidemment, on a un accomplissement de cette prophétie de l'Assyrien terrifié et de la mort du roi avec la victoire contre Sennachérib au terme de la campagne de 701 et puis finalement sa mort en 681, poignardé sans doute par un de ses fils. En tout cas, c'était une histoire de succession entre un de ses fils qu'il a eu avec une Amoréenne et les autres de ses fils qui étaient 100% ninivites. Oh là là, racisme, tout ça, hop hop hop. Sennachérib va mourir poignardé et pas brûlé. Peut-être si vous avez suivi sur la story Insta, vous avez remarqué qu'il y avait un truc comme ça sur GBU de France. Alors pourquoi Isaïe parle d'un bûcher au verset 33 ? Il dit qu'il va mourir cramé, quoi. Parce qu'en fait, le feu, c'est ce que crée la parole de Dieu. C'est sur ordre de Dieu que Sennachérib va mourir. Au-delà des complots politiques, au-delà des problèmes entre Ninivites et Amoréens, il y a le décret de Dieu qui dit « le roi va mourir ». Et le feu, c'est dans l'Ancien Testament un symbole de la parole de Dieu qui juge. Et c'est censé peut-être, cette idée de feu comme parole de jugement, nous faire censer peut-être un tout petit peu prendre de recul sur l'idée d'un enfer avec des flammes qui crament, tout ça, tout ça. L'idée de présenter l'enfer comme un lieu avec du feu, c'est surtout de nous dire que c'est l'action de la parole de Dieu qui condamne. C'est parce que Dieu décrète qu'en fait ces personnes-là seront éloignées de lui, que du coup il y a le feu du jugement. Dans ces versets, en plus de la libération des Assyriens, vous vous doutez bien, et vous l'avez sans doute senti à la lecture, qu'il y a un petit peu à plus longue vue, le jugement final. Ce jugement final tellement violent, mais qui va créer des louanges dans le peuple de Dieu, au verset 29. Et dans les interviews, je sentais que certains ne savaient pas trop comment dire ça. Je pense qu'Emmy, elle a fait un truc en disant « On chante, les gens se font massacrer, nous on chante des chants. » Un peu gêné, ok. On retrouve ici tout le paradoxe de l'Apocalypse, si vous êtes un lecteur de l'Apocalypse. Jour d'effroi et de terreur pour certains, et jour de joie et de libération pour d'autres. Je pense vraiment que tant qu'on n'a pas vécu la persécution, on ne peut pas comprendre ces textes qui parlent d'une joie alors que d'autres sont en train de mourir. On peut peut-être se dire théoriquement, oui, bah, c'est la justice de Dieu, machin, machin, peut-être intellectuellement on pourrait trouver un truc. Mais je pense que c'est difficile, en tout cas je serais assez étonnée que quelqu'un réussisse, mais je me poserais des questions sur ses émotions. Mais je pense que c'est quand même difficile d'en être consolé et réjoui de savoir que des gens vont mourir. Tant qu'on n'a pas vu nos familles être massacrées, être violées par les soldats ennemis, être emprisonnées et torturées. Et je ne nous le souhaite pas, hein, j'espère que jusqu'au bout nous resterons dans l'ignorance de ces choses. Mais si vous trouvez que c'est étrange de se réjouir quand certains sont dans la terreur et que vous dites quand même c'est un peu égoïste d'être heureux alors que d'autres sont terrifiés, je vous encourage à faire l'exercice d'aller sur le site de Porte Ouverte et de vous mettre dans la peau d'un chrétien afghan ou d'un chrétien coréen du Nord et de lire des témoignages et de vous imaginer à leur place. Je suis assez persuadée que ça changera un tout petit peu votre perspective. Mais même si on ne vit pas la persécution, ce temps de jugement a des choses à nous dire. Ce qui nous terrifie actuellement, et ce n'est peut-être pas des gens qui vont venir rentrer dans votre maison pour vous violer, pour brûler votre maison, mais ce qui nous terrifie actuellement sera terrifié par Dieu quand Dieu reviendra. Réfléchissez à ce qui vous terrifie. Réfléchissez à ce qui vous pousse à chercher de l'aide ailleurs qu'en Dieu. Parce que ces choses créent une telle panique en vous que le péché prend toute sa place. Ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur de la mort de nos proches quand même souvent c'est plus ça. Ça peut être la peur de l'échec, ça peut être un tas d'autres choses, je ne vais pas faire une liste parce que je pense que je ne suis pas capable d'imaginer tout ce qui pourrait être les choses qui nous terrifient. Ces choses qui vous terrifient et qui vous poussent souvent dans une mauvaise direction seront terrifiés par Dieu, éjectés, anéantis, disparus, on n'en parle plus. Parce que Dieu vous protège, il combat pour vous, et dès maintenant, et définitivement au jour du jugement. On arrive à la conclusion, finalement. Pensez à ce moment où vous avez été en stress intense. Qu'est-ce qui a influencé votre décision ou votre réaction? Si ce n'est pas Dieu, bon, peut-être c'est quelqu'un, c'est Dieu, mais la majorité d'entre nous, je pense que c'est quand même pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui nous fait réagir quand on est en coup de stress, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Il faut se prêcher à nous-mêmes, il faut prier, il faut méditer pour que cela change. Pour que notre orgueil, parce que quelle que soit la réponse que vous avez donnée sur la réaction, en fait c'est l'orgueil qui est derrière, hein, je pense que, voilà, je peux vous le prouver si vous voulez, un par un. Même si vous dites, mais moi c'est ma mauvaise confiance en moi, c'est mon manque de confiance en moi, c'est aussi de l'orgueil. Quelle que soit la réponse que vous avez donnée, c'est l'orgueil qui est derrière. Il faut qu'on travaille pour que notre orgueil arrête d'être notre moteur. On arrive, je pense, quand même, quand on est en état de calme et de contrôle, à nous tourner d'abord vers Dieu. Mais dès qu'on est en situation où on est un petit peu plus fragile, le péché revient et finalement, c'est l'orgueil qui reste notre moteur. Mais que l'humble confiance en Dieu soit notre moteur. Évidemment, imaginez les crises de stress et d'angoisse qu'on s'épargnerait si jamais on faisait ça. Nous avons un Dieu plein de grâce qui attend que nous nous attendions à lui. Quand nous paniquons, quand nous sommes angoissés ou terrifiés, ou juste inquiets, mettons la version un peu plus tranquille, que nous regardons partout où trouver le réconfort, où trouver le salut, Dieu est là, en fait. Il attend qu'on se rappelle que ce n'est pas juste pour la vie éternelle qui nous a sauvés, mais c'est pour la vie tout court, une vie de calme et de confiance dès maintenant. Il attend qu'on se rappelle qu'il a le seul à vraiment avoir nos intérêts à cœur. Il est le seul qui vraiment veut qu'on réussisse dans la vie, quel que soit ce que ça veut dire, version Dieu. Il est le seul qui peut tout. Alors arrêtons-nous et attendons-nous à lui. Attendons-nous à ce Dieu qui nous enseigne, qui nous protège, qui nous restaure et qui fait tout cela en Jésus. Parce que, je ne sais pas, si vous êtes un lecteur aussi de l'évangile de Jean, vous avez vu, franchement, moi quand j'ai lu, je me suis dit, ok, les versets 19 à 22, c'est un résumé de l'évangile de Jean, très bien. Et les versets 23 à 33, c'est un résumé de l'Apocalypse. Voilà, ça c'est fait, ce n'est pas la peine de lire ces trucs-là, vous lisez le chapitre 30, vous avez tout. C'est l'Esprit de Jésus qui nous guide. Écoutons-le plutôt que d'écouter nos peurs ou nos insécurités. C'est en Jésus que nous sommes déclarés vainqueurs. N'ayons pas peur. C'est facile à dire, hein, mais bon, moi, je suis juste payée pour parler. Donc, voilà. Dieu terrifie ce qui vous terrifie. Et c'est en Jésus que nous avons accès à cette vie abondante et trop cool qu'on va vivre ensemble dans l'éternité. C'est en lui que nous avons tout ce que nous passons notre temps à chercher ailleurs et à nous épuiser à chercher ailleurs. Parce qu'en vrai, on est tous aussi perdus que le fils prodigue à se dire « Non, mais Dieu, d'accord, en fait, je vais quand même aller chercher ailleurs. » Mais on est tous aussi accueillis par le Père qui nous attend. Arrêtons-nous maintenant si vous sentez qu'en fait vous êtes dans un moment où vous arrêtez, ou demain quand vous aurez un moment de stress, de panique ou un défi. Arrêtons-nous et attendons-nous à Dieu dans le calme et la confiance. J'ai terminé.